Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1975 et cinquième volume du cycle de Don Juan, le second anneau de pouvoir poursuit le récit initiatique attribué à Carlos Castaneda. Après le départ définitif de Don Juan Matus et de Don Gennaro, le narrateur ne peut plus se définir comme simple apprenti. Il se trouve confronté aux autres membres de la lignée et doit mettre à l'épreuve, sans la protection directe de ses maîtres, les principes appris auparavant. Le livre relève à la fois du récit de quête, de la spéculation spirituelle et de la prose autobiographique mise en scène comme témoignage. Son enjeu central est le passage de la perception ordinaire vers une attention dite seconde, associée au non-faire et à la réorganisation du monde perçu. Les rencontres avec Doña Soldad, la Gorda et les autres disciples servent moins à exposer une doctrine stable qu'à dramatiser une lutte contre la peur, les habitudes et la cohérence habituelle du moi. La lecture gagne à distinguer la force symbolique de cette fiction initiatique des prétentions ethnographiques contestées de son auteur. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le second anneau comme modèle de perception non ordinaire. Le titre désigne une faculté présentée comme distincte de la perception quotidienne. Le premier anneau organise le monde familier en objets, rôles, causes et certitudes. Il rend l'expérience praticable, mais tend aussi à faire paraître cette organisation unique et définitive. Le second anneau renvoie, dans le vocabulaire de Castaneda, à une autre attention capable de donner une cohérence à ce qui échappe aux catégories ordinaires. Le livre ne traite donc pas le pouvoir comme une domination sociale ou une force spectaculaire. Il le conçoit comme une aptitude à déplacer le cadre même dans lequel une situation est interprétée. Cette idée structure les épisodes où Carlos hésite entre explications rationnelles, peur et reconnaissance de règles nouvelles. Sur un plan littéraire, ce dispositif permet de maintenir une ambiguïté productive. Les phénomènes décrits peuvent être lus comme réalité magique interne au récit, comme expérience de conscience ou comme image de conflit psychique. Le texte insiste ainsi sur le caractère construit de la perception. Il ne fournit toutefois pas une méthode vérifiable pour accéder à une conscience supérieure. Sa valeur tient davantage à la question qu'il pose, celle des habitudes qui déterminent ce que chacun considère spontanément comme réel. Deuxièmement, une autonomie forcée après la disparition des maîtres. Le point de départ du livre modifie profondément la dynamique des volumes antérieurs. Don Juan et Don Gennaro ne sont plus présents pour expliquer, corriger ou protéger Carlos. Cette absence ne constitue pas seulement un ressort narratif, elle transforme l'apprentissage en examen. Le narrateur doit agir avec des connaissances incomplètes, interpréter des signes équivoques et assumer les conséquences de ses décisions. Castaneda associe cette situation à la figure du guerrier, non pas comme héros invulnérable, mais comme individu contraint de ne plus déléguer son discernement. Les adversaires et alliés qu'il rencontre deviennent alors des révélateurs de ses propres réactions, notamment de son besoin de contrôle et de confirmation. Le livre suggère que l'enseignement reçu ne vaut que lorsqu'il est incarné hors de la relation de dépendance au maître. Cette autonomie demeure cependant paradoxale, car les règles du jeu ont été fixées par une lignée dont Carlos cherche encore la validation. C'est ce paradoxe qui donne au récit sa tension. Devenir autonome exige de quitter le guide, mais aussi de supporter l'incertitude laissée par son départ. Dans une lecture non littérale, cette structure décrit le passage difficile entre savoir appris et jugement personnel. Troisièmement, les femmes de la lignée et la pluralité des positions de pouvoir. Le second anneau de pouvoir accorde une place décisive à plusieurs femmes liées à l'univers de Don Juan, notamment Doña Soledad, la Gorda et les Hermanitas. Leur présence élargit le récit au-delà du face-à-face traditionnel entre un maître masculin et son disciple. Elles ne sont pas de simples auxiliaires chargées de confirmer la progression de Carlos, elles possèdent leurs propres expériences, leurs propres stratégies et parfois des intérêts opposés aux siens. Cette pluralité rend le pouvoir moins abstrait. Il apparaît dans des relations marquées par la rivalité, la méfiance, les alliances instables et la nécessité de coordonner des personnes aux perceptions différentes. La Gorda occupe une fonction particulièrement importante, car elle devient une interlocutrice capable de contester les limites de Carlos, tout en partageant une partie de son parcours initiatique. Le livre met ainsi en scène une communauté de praticiens plutôt qu'une transmission purement individuelle. Il faut néanmoins éviter de lire ces figures comme un document fiable sur des traditions autochtones réelles. Les récits de Castaneda ont été fortement contestés sur le plan anthropologique. Dans le cadre du texte, ces personnages fonctionnent surtout comme des forces narratives qui obligent le narrateur à abandonner une vision centrée sur lui-même. Quatrièmement, impeccabilité, énergie et combat contre les réactions du moi. L'aile impeccabilité constitue une exigence récurrente dans le cycle et prend ici une portée concrète. Elle ne signifie pas perfection morale ni obéissance à un code social. Elle désigne une économie de l'attention et de l'énergie, éviter la complaisance, la peur paralysante. les conflits inutiles et les réactions dictées par l'importance personnelle. Carlos est régulièrement placé dans des situations où son indignation, son désir de comprendre immédiatement ou son besoin de se défendre deviennent des obstacles. Le combat principal se déroule donc moins contre un ennemi extérieur clairement identifié que contre les automatismes du moi. Cette perspective explique la dureté de certaines confrontations du récit. Elle vise à désorganiser les certitudes qui maintiennent l'individu dans un rôle connu. Pour un lecteur contemporain, le concept peut être rapproché avec prudence de l'observation de soi ou de la régulation émotionnelle. Sans le réduire à ses pratiques, Castaneda ne propose pas un programme psychologique moderne et son langage énergétique reste métaphysique. Son intérêt réside plutôt dans une intuition exigeante, la tension est limitée et les scénarios répétitifs de peur, de vanité ou de ressentiment peuvent en absorber une part considérable. Le livre fait de cette discipline intérieure la condition du changement de perception. En dernier lieu, un récit initiatique puissant, dont le statut factuel exige une lecture critique, la force singulière du livre provient de son hésitation entre compte-rendu, vision mystique et fiction d'initiation. Castaneda écrit à la première personne, multiplie les dialogues et décrit des expériences avec un degré de précision qui invite le lecteur à suspendre son incrédulité. Cette forme donne une intensité particulière aux scènes de confrontation et aux descriptions de mondes non ordinaires. Elle explique aussi pourquoi une partie du public a lu le cycle comme un accès direct à un enseignement chamanique. Or, cette réception pose problème. Les récits de Castaneda ont suscité de sérieuses contestations quant à leur valeur ethnographique et à la réalité vérifiable des personnes, pratiques et événements rapportés. Le livre ne devrait donc pas être employé comme source d'informations sur les Yakis ou comme guide de pratiques spirituelles. Cette réserve ne réduit pas nécessairement son intérêt littéraire et culturel. Lu comme une œuvre hybride, il permet d'analyser la fascination occidentale pour le chamanisme, la transformation de soi et les états de conscience alternatifs. Sa complexité peut dérouter, surtout hors du contexte des volumes précédents. En revanche, sa structure interrogative et son refus des explications stabilisées donnent au lecteur une expérience de lecture inhabituelle, où la signification demeure volontairement disputée. En conclusion, le second anneau de pouvoir conviendra surtout aux lecteurs déjà engagés dans le cycle de Don Juan, aux amateurs de récits initiatiques et aux personnes qui s'intéressent aux formes littéraires de la conscience modifiée. Il sera également utile à qui souhaite étudier la réception occidentale du chamanisme au XXe siècle, à condition de conserver une distance critique nette. Le bénéfice intellectuel du livre ne réside pas dans une doctrine démontrable, ni dans des exercices applicables tels quels. Il se trouve dans son exploration insistante des cadres perceptifs, de la dépendance envers les maîtres et de la dépense d'énergie psychique liée aux réactions habituelles. Le texte force à examiner la manière dont peur, besoin de cohérence et importance personnelle organise une interprétation du réel. Par rapport à de nombreux ouvrages spirituels, il se distingue par une forte tension romanesque. Les idées ne sont pas présentées sous forme de leçons systématiques, elles sont éprouvées dans des rapports conflictuels, des énigmes et des renversements des perspectives. Par rapport à un roman de fantastique classique, il se distingue inversement par son vocabulaire initiatique et par sa revendication de témoignage. Cette position intermédiaire explique à la fois son pouvoir de fascination et les controverses qui l'entourent. Une lecture attentive, idéalement après les livres antérieurs de la série, permet de saisir cette étape comme le récit d'une autonomie incertaine, plutôt que comme un manuel de vérité spirituelle. Si vous souhaitez soutenir Carlos Castaneda, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!